Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette. Sur vos roues, j'ai perdu mes dents. Sur vos roues, j'ai vu la fête. Le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins. Le vent, j'ai dessiné en mille facettes. Interrogez les rues d'un gars, sans oublier les rues de Lafayette. Ils vous diront, il faut avoir un grain. C'est les rainettes, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite. Je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette. Sincèrement, j'ignorais le temps. Cela peut arriver aux prophètes. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Au moins, cassez les lunettes. S'il vous plaît, tendez-moi vos mains. Avant que je perde la tête. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage. C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marceau Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'OTAN d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais excuse l'Élysée si j'ai plus de freins. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter futur, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, ce qui m'ont jugé, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé chez mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer à sa tour. J'aurais pardonné la putain. Pourquoi j'ai réagi, s'agit des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés. J'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'un âne m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui, c'est vrai qu'un âne, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu éviter sa banane, m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse vous veut la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune. S'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me tuer futur, l'angoisse vous veut la preuve. La rage.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire 89.4 FM en région parisienne et sur le net pour le reste du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir, alors, dans l'ordre, un acteur, comédien et metteur en scène de théâtre, Nicolas Lambert. Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Alors, j'ai essayé pour 90 minutes de résumer ta vie, ton travail, ton œuvre.
Je ne suis pas si vieux que ça non plus. Ah, quand même, ouais, remarque.
Non. Mais tu as une vie tellement dense qu'on va évoquer certains passages, on va s'attarder sur d'autres. Je suis désolée pour les auditeurs qui voudraient te connaître davantage, mais ils ont une solution. Ce serait d'aller au théâtre et d'aller au cinéma, parce que tu as deux rendez-vous à leur proposer. On va y revenir. D'abord le théâtre. Ouais. La France, Empire... Histoire, non, un secret de famille nationale. C'est la pièce de théâtre que tu donnes au théâtre de Belleville.
Oui, c'est ça. Jusqu'à la Toussaint 2024, donc fin octobre.
Oui.
Voilà. Et c'est effectivement un spectacle, une pièce. Et c'est les samedis, dimanche, lundi, ça.
Tout à fait. C'est pour ça que mardi, tu peux être à l'antenne avec
nous. Exactement.
Alors, c'est un spectacle fascinant. Tellement fascinant que tu m'as été recommandé chaudement, mais j'avais prévu d'y aller, puisque le réseau des adhérents de survie te soutient depuis très longtemps et adore tout ce que tu fais depuis très très longtemps, depuis Elf la pompe afrique, mais ça on va y revenir.
C'était hier.
C'était hier, tout à fait. Et le juge Eric Alt m'envoie un mail pour dire, écoutez, je sors de la pièce La France Empire, il faut absolument que vous ayez Nicolas dans votre émission. Ah, je dis, ah ben... Sachant qu'il a eu le prix Anticorps en 2020, je ne peux que m'exécuter. Donc je t'ai appelé, et on a convenu d'une date, et tu as accepté gentiment de venir à l'antenne. Oh ben,
c'est un honneur hein, d'être dans ce micro et de parler à nos fidèles auditeurs. Je dis nos parce que j'ai eu la chance de faire quelques petites choses aussi en tant que réalisateur sur Radio Libertaire il y a bien longtemps.
Oh, pas si longtemps que ça. C'était hier.
C'était hier.
Voilà. Alors, après des études de philosophie à l'université de Nanterre, tu as dirigé le théâtre universitaire.
Oui.
Nanterre la folie, dont le texte est aux éditions du Fallois.
Ouais, c'est ça.
Était la première pièce qui t'a lancée.
Oui, une pièce que signée Sylvie Gravagna, avec qui je continue de travailler, qui m'a énormément aidé sur ce spectacle, et dont on va parler aussi, puisqu'elle a aussi une actualité théâtrale. En ce moment, elle joue un spectacle à Montreuil, au Thénardier.
D'accord. Bien. Alors, en 92, tu fondes la première compagnie Charles Noé.
Oui,
avec
c'est
ça. Avec Sylvie.
Sylvie Gravagna,
justement. Ouais. Et tu fais de la radio.
Ouais, c'est vrai.
Donc j'ose pas ne pas faire mal mon animation.
Oh là là.
Bah écoute, j'ai un expert devant moi, donc je vais faire des efforts.
Très modeste, très modeste.
Voilà. Donc tu avais comme principe de donner la parole à ceux qui sont oubliés par les médias dominants.
Ça c'était le travail que nous avons fait avec Fréquence Éphémère, une radio c'est un collectif animé par Antoine Chao, qui a travaillé ensuite beaucoup chez Daniel Mermet et qui a ensuite qui s'est fait virer de France Inter l'année dernière hein, comme tout le monde. Et qui
comme tous les talents.
En tout cas, oui, c'est ça. C'est vrai que c'est une maison qui
ne sait pas retenir ses talents.
Oui, on va dire ça comme ça. et avec Antoine Chao, on a fait pas mal de petites choses, effectivement. Ce que je faisais à Nanterre, c'était autre chose. C'était bien plus modeste. Je travaillais. Je le raconte un tout petit peu à un moment donné dans le spectacle La France Empire, puisque je faisais, j'étais objecteur de conscience à l'époque et j'ai travaillé en tant que un petit peu tout dans une radio qui s'appelait Radio Lucrèce, qui était un petit condensé de plusieurs anciennes radios, Radio Tomate, Radio. Il y avait plusieurs anciennes radios libres des années 80 et à la fin de ces années 80, voilà, je travaillais dans cette structure à moitié aussi qui était à Nanterre. Et dont les studios étaient à Paris dans le 13e. Voilà, et c'est comme ça que j'ai eu la chance de... j'avais été conseillé d'ailleurs par quelqu'un de France Inter, par l'immense Claude Villers, qui m'avait dit, allez voir cette personne-là. Moi, je connaissais personne, je venais de ma province, je venais de ma Picardie, et j'étais allé assister à une émission à France Inter, et j'avais dit, j'aimerais bien faire de la radio un jour, je rêvais de faire de la radio. Il m'a répondu, allez voir machin qui dirige un syndicat de radio libre et Radio Lucrèce en était l'émanation. Et je m'en suis souvenu il y a deux jours de ça parce que en partant à la fin de la discussion, Claude Villers m'a dit, à votre service. Et cette notion de service public qui était tout le temps quoi, qui était tout le temps là chez des gens comme ça continue à résonner chez moi.
Oui, tu te considères au service du public.
Ah c'est mon boulot, oui, tout à fait. Je n'ai que ça à faire. J'ai un métier qui me permet d'être en contact avec le public comme on a la chance d'être ici en radio. Moi, je travaille essentiellement sur des plateaux, sur la scène, sur des planches. Et c'est vrai que, puisque j'ai quelque chose à... Mon boulot, c'est de raconter des histoires au public. Autant que ça serve à quelque chose, et je pense que c'est ça, le service public, c'est que ça serve à, que ça serve à quelque chose. Après, nous, quand on fait des spectacles, c'est, on a tous cette petite prétention. Quand on fait un machin artistique, on a tous envie que, quand on voit cette production-là, bah que ça aide à changer un petit peu le regard du spectateur ou de l'auditeur ou de voilà, peut-être que si ça peut servir, j'en suis très heureux.
Alors 2005, c'est la création de la compagnie Un Pas de Côté.
Oui, c'est ça.
Avec Sylvie.
En réalité, c'est toujours la même compagnie, mais qui change de nom chaque fois qu'on a un peu trop de dettes. Mais il ne faut pas le dire.
Voilà, il ne faut pas le dire. Et c'est surtout bleu, blanc, rouge, la démocratie.
Oui.
Et elf, bleu,
oui.
La pompe afrique.
Ça.
Ah, ça, c'est un grand moment. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es venu à elf, la pompe afrique ? D'après la légende urbaine, tu es intermittent de spectacle.
Oui.
Tu n'as pas d'engagement et tu décides d'aller au tribunal écouter ce procès.
Oui, alors en réalité, j'étais à ce moment-là, je faisais davantage de radio que de théâtre et l'idée m'était venue de faire un feuilleton radiophonique à partir de ce que je pouvais entendre dans une série de procès. Alors, si on remonte complètement à l'origine de ça, il faut repartir en 2002-2003.
Oui, 17 mars 2003 pour le début du procès.
Alors ça, mais ce qui fait que je vais m'y retrouver, c'est une série d'attaques assez sympathique de la part de ce qui s'appelait déjà le MEDEF, probablement, oui. le patronat français, qui revenait au pouvoir gaillardement à partir du moment où Jacques Chirac a remporté la deuxième élection,
son second mandat.
Et les termes du MEDEF étaient très très clairs. Il s'agissait de se débarrasser de l'héritage du Conseil national de la Résistance.
Oui.
C'était les propos, c'était même pas caché.
Oui, c'était
cash.
Oui, c'était
les propos cash du patronat. Et il s'agissait pour eux de dire, bon voilà, de tout ce qui a été sécu, enfin voilà, les droits. Rappelons aussi que le fait d'avoir accordé le droit de vote aux femmes françaises à l'époque faisait partie du CNR. Donc voilà, il avait dit, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est se débarrasser de cet héritage-là. Très bien. Et une des choses, évidemment, qui fait partie de ce projet-là, c'est de détruire le statut d'intermittent du spectacle.
Tout à fait.
Et donc les attaques deviennent extrêmement violentes sur ce statut. On fait, il y a beaucoup à ce moment-là de manifestations et de mouvements et d'actions d'intermittents du spectacle. Et à ce moment-là, moi, ce que je propose je faisais partie de quelque chose qui s'appelait la coordination des intermittents du spectacle, qui se réunissait dans le 11e à l'époque, à un arrondissement dans le 11e, dans une salle qui s'appelle toujours la salle Olympe de Gouges,
oui.
et qui avait, je m'en souviens bien parce que c'était une manif qui s'était terminée, qui passe devant la salle Olympe de Gouges, et on arrive à la salle Olympe de Gouges, et on dit, bon ben, on va occuper la salle, et on a occupé la salle pendant de nombreuses semaines, plusieurs mois, et le gardien de la salle Olympe de Gouges, qui est un garçon formidable, appelle à ce moment-là le maire qui était Georges Sarre à l'époque, le maire du 11e, pour dire, bon bah, qu'est-ce que je fais, je les laisse entrer, on est de gauche ou pas? Et j'avais bien aimé cette réplique-là, je l'ai retenue. Et à un moment donné, voilà, moi, ce que j'avais proposé à cette période-là, c'était de dire, bon ben voilà, maintenant, il faut mettre notre
art,
en tout cas notre pratique, nos disciplines, au service du public. C'était déjà le cas, évidemment, mais là, c'était aussi de dire, bon ben, il faut quand même raconter un peu mieux ce qui se passe. Là, on est face à un pouvoir qui était à l'époque le chiraquisme, qui nous expliquait qu'on détournait l'argent du peuple, il nous disait ça, hein, dans ces termes-là. On pique l'argent du peuple pour s'enrichir grassement, c'est-à-dire pour tâcher d'obtenir un SMIC à la fin du mois, en ayant des allocations qui nous permettent de subsister et de ne pas compter que sur les nos seuls cachets, voilà. Et c'est vrai que c'est une très grande chance d'avoir ça dans notre pays. Et voilà, donc attaque violente là-dessus. Et je me dis, tiens, on va voir un petit peu comment est financé le parti gaulliste, le parti de Jacques Chirac, ce qui s'appelle aujourd'hui Les Républicains. Et je m'attaque à un petit triptyque, un sujet, en tout cas que je voulais traiter sur un spectacle, qui était, me semble-t-il, les trois piliers, les trois fondamentaux du chiracisme, ce qui permettait de payer après ce qui s'était passé à la mairie de Paris. On voyait bien que le pétrole, le nucléaire et l'armement faisaient partie de ce qui remplissait les poches de ces parties-là. Et je me suis dit, ok, je vais faire un spectacle là-dessus. Rigolo, pour raconter le pétrole, le nucléaire et l'armement français, c'est pas avec un spectacle que je vais faire ça. Et rapidement, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'en fasse plusieurs. Donc j'ai commencé par assister à un certain nombre de procès. Donc j'ai assisté au procès ELF, mais pas que à l'époque, j'avais aussi assisté au procès des marchés publics. Marchés truqués des établissements.
HLM,
exactement, des établissements scolaires, tout ça.
Voilà.
Donc j'ai vu Alain Juppé à la barre, j'ai vu Loïc Le Floch-Prigent, PDG d'ELF à la barre, j'ai allé voir tous ces gens-là avec des. Et comprendre aussi comment fonctionnait la justice et sur ces bancs-là, moi, initialement, alors, quand je dis que j'allais faire un spectacle, en réalité, initialement, je voulais faire un feuilleton radiophonique. Mmh. Et par ailleurs, j'ai eu l'idée, tiens, on pourrait mettre ces personnages-là aussi dans un spectacle. Et j'avais commencé à penser deux choses en parallèle, un feuilleton radiophonique d'un côté et un spectacle de l'autre. Jusqu'à ce que je me dise, je peux faire les deux en même temps.
Oui.
Et je peux proposer quelque chose qui s'appelle du documentaire au théâtre. Ce qui ne se faisait plus du tout à l'époque, c'est ça, le théâtre documentaire a une histoire, mais qui s'était arrêté dans les années 50-60 en France. D'ailleurs par des spectacles très important de théâtre documentaire et il me semblait qu'on pouvait refaire du documentaire au théâtre et j'ai proposé ça alors pendant les premières années on m'a dit non le documentaire ça existe pas c'est au théâtre c'est pas une bonne idée d'en faire et finalement ça a pris et aujourd'hui il y en a beaucoup voilà
et tu as remis en route un processus.
Oui, c'est ça. j'en étais ravi parce que c'est quelque chose qui est très utile, je crois.
Tout à fait.
Et aujourd'hui je propose autre chose qui est je continue à me servir du document bien sûr, mais c'est un essai là, c'est autre chose, c'est une autre forme et ça on en parlera plus tard. Donc voilà, 2003 j'assiste au procès ELF, procès ELF qui durait 4 mois.
Oui. Avec un président d'envergure.
Oh là là, oui.
Que tu as reçu dans ta pièce de théâtre.
Oui,
tu es venu
tout à
voir
fait.
Le spectacle.
Tu sais ça, oui, absolument.
Voilà. Et oui. Il ne s'est pas reconnu. Par contre, sa femme a dit que.
Exactement, oui, tu sais tout. Exactement, oui. Oui, c'était très drôle. J'étais justement moi-même avec ma partenaire, ma compagne. Et lui aussi, il était venu, c'était à Nancy, je crois. Mm-hmm. Et à l'époque où il était procureur là-bas. Et il est venu voir la pièce, il dit incroyable, je reconnais tout le monde. Enfin, moi, non. Et sa femme dit oh, si, quand même. Comme ça, ça m'avait fait plaisir.
Bravo pour madame.
C'est toujours compliqué de se reconnaître.
Hein. Oui.
On le sait bien, hein, nous, quand on écoute notre voix à la radio, on la reconnaît pas.
Alors.
On sait que c'est la nôtre. Mais on ne peut pas la reconnaître.
Mais je suis obligée de m'écouter pour corriger mes défauts, que je n'y arrive. Et j'arrive de moins en moins.
Alors, imaginez, chère Mariama, ce que c'est que de faire un film où on se regarde. Ça,
oui.
C'est épouvantable. Mais ça, on en parlera aussi.
Tout à fait.
Parce que c'est une autre étape.
Alors, pour le spectacle F, la pompe Afrique,
ouais.
Tu as croisé
la route.
La route,
ouais.
D'un homme emblématique,
ouais, ouais,
que nous connaissons tous les deux.
Ouais.
Et avec lequel j'ai travaillé pendant 11 ans.
Et oui, ouais, ouais, quelle chance.
Voilà,
ouais,
c'est une grande chance.
Ouais.
Il a changé, c'est mon mentor, il a changé ma vie.
Ouais, ouais.
C'est
pas que.
Il en a changé. Il a changé la vie de plein de monde.
Ouais, ouais.
C'est François-Xavier Verschave. Et
si on pense qu'un artiste c'est quelqu'un qui change le regard des gens, bah, je crois que c'était un grand artiste.
Oui, c'est un très grand artiste. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas François-Xavier Verschave, j'ai pris un extrait de sa voix où il se présente et je vais demander à Jean-Mi d'avoir la gentillesse de nous passer l'audio de François-Xavier Verschave qui se présente. Merci beaucoup.
Je voudrais vous parler globalement de l'envers de la dette, mais ce titre, l'envers de la dette, c'est, on pourrait dire, c'est l'escroquerie de la dette. C'est-à-dire comment, en fait, ce qu'on prétend être une dette de l'Afrique vis-à-vis de l'Occident, ou vis-à-vis de la France, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse, et cette dette, elle n'est pas d'abord économique, elle est d'abord politique. C'est-à-dire que je vais vous parler de politique. Je suis un économiste, parce que j'ai fait de l'économie il y a un peu plus de 35 ans, parce que je pensais que c'était comme ça qu'on luttait contre les problèmes d'injustice, d'inégalité, etc. Bien, aujourd'hui, je suis un économiste qui pense que ça passe d'abord par la politique, c'est-à-dire que quand vous prenez un pays comme le Cameroun, par exemple, qui est un pays riche extraordinairement en ressources matérielles et en ressources humaines, son seul problème, c'est pas la richesse, c'est la légitimité du pouvoir. Si vous avez un pouvoir qui passe son temps à détruire tout ce que les gens fabriquent et à organiser la corruption, comment voulez-vous qu'un peuple s'en sorte? Donc les problèmes sont des problèmes de légitimité et vous allez voir pourquoi ces problèmes de légitimité se posent. Alors,
voilà, donc c'est François-Xavier qui se présente et qui explique sa démarche. C'est un économiste qui a voulu aider les peuples en développement et qui se rend compte au fil du temps que les problèmes sont politiques et qu'il faut s'attaquer à la politique. Et donc, il définit les termes, et notamment le terme de France-Afrique, qu'il emprunte à un personnage issu de la France-Afrique, un pilier de la France-Afrique, qui est Oufouette Boigny, l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Alors, je vais te lire la préface que François-Xavier a consacrée au texte de Elf la pompe afrique, qui est aux éditions L'Échappée. Tu as fait un texte avec Samuel Foutoyer, Elf la pompe afrique, avec des dessins de
Ototé, voilà. Dessinateur extraordinaire.
Voilà, très bien. 10 euros
oui.
si on l'achète à part, 30 euros si on l'achète la trilogie.
Oui, tout à fait.
Voilà, elle est vendue à Publico.
Bien sûr.
145 rue Amelot, dans le 11e, métro Oberkampf. Fils du calvaire et république. Alors voici la préface que François-Xavier a consacrée au livre. Nicolas Lambert s'est emparé de l'affaire Elf, mélange de France-Afrique, d'arrogance et de valises habillées. Il a assisté aux séances du procès. Il en a longuement mâché et digéré les échanges pour finalement laisser parler les protagonistes de tout cet inavouable. Le résultat est jubilatoire. Le double langage se désagrège sous nos yeux et cette décomposition nous décoince les neurones, nous rend la liberté de comprendre et l'envie d'agir. Tout est dit.
Oui.
Est-ce que tu te reconnais dans ce portrait?
Oh bah, c'est flatteur. Oui, bah, c'est ce que, en tout cas, c'est la proposition, c'est la tentative, c'est de faire de se servir de la scène pour faire un moment plutôt sympa. Quand même, de pouvoir se dégourdir les neurones, ça me paraît une bonne occupation. Et en même temps, si on peut piger deux trois choses qui nous aident à affronter ce monde complexe, voilà, c'est à ça que peut servir le théâtre. Ouais, et comme on a la chance, moi j'ai eu la chance de travailler à partir de ce que proposait François-Xavier Verschave et de comprendre effectivement cette notion de France-Afrique. Eh bien, voilà, comment mettre moi, ce que je sais faire, c'est raconter des histoires. Eh ben, comment mettre ces compétences-là au service de gens comme lui, voilà, pour moi, de gens qui sont eux-mêmes des grands serviteurs du public.
Oui.
sinon de notre République, si nous pouvions parler si c'était bien le public qui régnait sur ce dans notre patelin, ce serait pas mal.
Bien. Alors Nicolas, après Elf, tu as décidé d'en faire un film.
Absolument.
Alors raconte-nous la genèse de ce film et tu proposeras les dates parce que tu as un scoop. que je suis ravie d'annoncer à nos auditeurs.
Oui, parce que le théâtre c'est bien gentil, mais c'est éphémère. Hein, c'est la nature du spectacle vivant, c'est qu'à un moment donné ça meurt. Bon, et surtout quand on a des théâtres en France qui sont pas très très chauds pour prendre des spectacles politiques, et il se trouve que la période actuelle
pire que d'habitude.
Oui, c'est ça. Ça fait une dizaine d'années moi que je suis que les théâtres ont beaucoup de mal à faire venir nos spectacles. Absolument. Là, on est face à une censure qui est tout à fait
assumée.
Pas assumé, c'est ça qui est étonnant. Il faut lire ces canards-là, mais la semaine dernière, il y a eu une page dans Télérama, une page entière aussi dans Le Monde, qui dit, oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme autocensure dans le théâtre, parce que vraiment, les salles de spectacle ne veulent plus prendre de théâtre politique. Non, ça s'appelle pas de l'autocensure, ça, camarade, c'est de la censure. Quand on s'autocensure, quand on n'ose pas écrire quelque chose, mais quand on refuse d'accueillir des gens qui ont écrit des choses, qui racontent des choses sur d'autres scènes, c'est pas de l'autocensure, c'est de la censure. Et il se trouve que nous, on a un service du théâtre qui est formidable en France. Il y a plein de théâtres qui ont des très belles salles, avec des très bons fauteuils, avec des très beaux éclairages, dans plein de villes, de petites villes, de grandes villes en France. C'est un vrai service public, mais c'est aussi un monopole de l'État. Et ce monopole-là, si on n'est pas seulement dans les petits papiers, mais si on représente une quelconque remise en cause de l'État actuel, absolument, c'est très difficile d'y aller. Là où on peut considérer qu'il y a une autocensure, c'est que les tauliers de ces lieux-là se disent bon ben moi si je te fais venir et ils sont très francs avec moi. Là j'en ai un cahier des centaines. Je suis en train de jouer un spectacle. Ils viennent par centaines.
Oui,
de toute la France. Bon.
Il faut réserver pour aller à ton spectacle.
Et ils me disent, moi, si je te prends, je me fais virer. Voilà. Parce que, moi, je peux pas tenir un théâtre si j'ai parlons du passé, comme ça. Avec un Wauquiez qui était à la tête de la région. Un Wauquiez, un Laurent Wauquiez, s'il met 3 francs 50 dans un théâtre, il exige d'avoir sa tronche dans le programme du théâtre. Il exige d'avoir un petit édito dans le programme du théâtre. C'est un pouvoir de nuisance considérable que tous ces petits pouvoirs, que toutes ces nouvelles féodalités qui ont cours dans notre pays. Donc, c'est très compliqué parce que un théâtre qui va dire un petit peu, qui va contrarier tel ou tel petit potentat local, va se faire supprimer ses ressources et va fermer. Et des théâtres qui ont fermé, ça se compte par centaines en France depuis 15 ans. Par centaines. Le nombre de festivals qui ont fermé depuis 15 ans en France, c'est par centaines. Vraiment. C'est considérable. On est un très grand pays. Près de 70 millions d'habitants, avec des 36 000 villes. Les théâtres ont fermé depuis ces dernières décennies d'une façon, alors à bas bruit parce que ça se voit pas beaucoup, on dit non mais il a pas fermé, c'est encore un lieu, on peut y faire des répétitions, mais non, mais c'est plus un lieu qui accueille. Moi on s'en rend pas compte. Bon, voilà, c'est comme les bureaux de poste, comme tous ces services publics là,
c'est comme ça. Les bureaux de poste.
Voilà.
La sécurité sociale.
Les hôpitaux, les maternités. C'est ouais. Alors, bon, bah, c'est moins indispensable qu'une maternité. Et on se rend plus compte que de la maternité, et elle manque encore plus que le théâtre. Mais quand même, une fois que le bébé est sorti de la maternité et qu'il grandit, on est bien content d'avoir des lieux où on peut aller boire des coups et voir un spectacle plus ou moins marrant après, et qui permet de comprendre un petit peu mieux dans quoi on vit, et dans lequel on peut avoir des concerts, des machins. Bon, voilà. Et ben, ces lieux-là, aujourd'hui, se voient imposer une vraie censure, et du coup, ben moi je continue à faire quelques petits spectacles de ci de là, que ce soit celui-là ou des spectacles de chansons ou d'autres choses, mais en parallèle, ben je me propose aussi de transformer ce que j'ai fait en film. Parce que, d'abord, parce que c'est pas mal de pouvoir être accessible dans un écran qui tient dans une poche, oui. À terme. Mmh. Et c'est aussi une autre façon de raconter des histoires. Et c'est vraiment une autre façon de raconter. Ça, c'est une aventure que je découvre. On raconte pas du tout de la même façon.
Tout à fait.
Et voilà. Donc, j'ai proposé. Alors, j'ai tourné déjà 3 films. Oui. J'en ai fini un.
Elf, la pompe afrique.
Alors que je n'appelle plus Elf, la pompe afrique, mais la pompe afrique, puisque oui. Elf est une marque qui n'existe plus depuis que Total. Aujourd'hui, ça s'appelle Total Energy. Donc voilà, il s'agit de comprendre aujourd'hui comment une boîte comme Total Energy est un pouvoir immense. Et si vous voulez bien aller regarder ce film, un de ces quatre. D'ailleurs, il sera début novembre au Méliès de Montreuil, début novembre 2024 là. Dans quelques semaines là, à l'heure où on enregistre cette émission. C'est une grande chance.
On est en direct.
Oui, bien sûr. Nicolas. On est en direct, mais par chance, la magie du podcast nous permettra d'être encore audible dans
tout à fait
dans des décennies. Dans des siècles.
Bien. Donc, on va demander à Jean-Michel de nous passer la pause musicale et on va revenir.
Jabar suklas neni jaynge ni ke au madere
mak tu jahan borom di jaw du fo mak tu jahan borom di jaw du fo mak tu jahan borom di jaw du fo mak tu jahan borom di jaw du fo
muay su dom sokla su ne bayng ni ke lekel fo wi what's a mustas what's a fas eti kunega da jakar lok yaayam boy mu ni le bu bax go fay ko juni taku ga dembelek
mak tu jahan borom di jaw du fo mak tu jahan borom di jaw du fo mak tu jahan borom di jaw du fo to mak tu jahan borom di jaw du fo
swear we de we nga jël saku jeb sampal ndeyam bis bu ne juni mangi laaj te werulumu sanja boddi mo ngir xamuñu la ngay doxalo dani fomi jamana bene khul si yow
mak tu jahan borom di jaw du fo mak tu jahan borom di jaw du fo mak tu jahan borom di jaw du fo to
nit ku la deful dara dal ci kawam amna lu am ci rew mi tay ñu wax ko fekk nit ku la deful dara dal ci kawam su kero ge yow ma xiyam ngeen la yoko di nga toñ sa borom di nga toñ sa maram nit dina la romba bu bu bo bu bu dof nga kay toñ fekk ko ku wayu yalla la dam amna lu am ci rew mi tay ñu wax ko fekk nit ku la deful dara nga dal ci kawam amna lu am ci rew mi tay ñu wax ko fekk nit ku la deful dara nga dal ci kawam.
Chers auditeurs de Radio Libertaire, nous sommes dans Pas de quartier avec Nicolas Lambert, acteur, comédien et metteur en scène de théâtre, et nous allons évoquer Avenir à Dieu, une fiction française qui est donc la deuxième pièce de théâtre que tu as faite. Pour expliquer le financement de la vie politique française.
Oui.
Toujours, dont le texte est toujours chez l'échappé,
oui.
Et dont le coffret fait partie de bleu, blanc, rouge,
c'est ça,
donc
ouais.
c'est blanc.
Bleu pétrole, blanc nucléaire et rouge armement.
Voilà.
C'était ça le projet.
Ouais.
Oui, puisque le nucléaire français a été installé, alors je raconte un petit peu tout ça dans le spectacle, mais ce qui fait le lien aussi charnel de ces trois blocs, pétrole, nucléaire, armement, c'est un homme qui s'appelle Pierre Guillaumat. Pierre Guillaumat, c'est quelqu'un d'important dans l'histoire de France, dont on n'a pas retenu le nom, si ce n'est
que... Il est méconnu,
voilà,
grand public.
Oui, voilà, c'est ça, c'est pas quelqu'un dont on a le nom sur toutes les rues aujourd'hui, mais Pierre Guillaumat, c'est l'homme de la bombe française, voilà, de la bombe atomique, donc ce qui relie déjà directement le nucléaire civil et le nucléaire militaire, puisque lui-même ne faisait pas de différence entre ces deux domaines. Le nucléaire civil et le nucléaire militaire sont deux faces d'une même médaille. Mais par contre, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que Pierre Guillaumat, c'est l'homme qui a créé ELF en 1967, au moment où Charles de Gaulle voulait avoir un instrument à sa disposition, ne serait-ce que pour financer la vie politique, mais pas que. ELF avait plusieurs facettes diplomatiques, politiques et industrielles. Et ELF donc a été une création de Pierre Guillaumat, qui est cet homme de l'ombre. Qui vient de très loin dans notre histoire. Il se trouve qu'il a été aussi ministre de la guerre pendant ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre d'Algérie. Donc voilà, c'est cette personnalité-là, cette grande figure française. Je l'interprète dans ce spectacle-là, et ça permet je pense, de comprendre deux trois trucs sur d'une part comment on s'est retrouvé à être le pays le plus nucléarisé au monde.
Oui.
Et comment on fait, comment nous avons fait d'une part notre bombe, mais pas que, puisqu'il y a un pays qui est un peu dans l'actualité en ce moment, au Proche-Orient, qui lui-même dispose de l'arme atomique, alors de façon officieuse, mais il se trouve que nous avons collaboré à cette construction-là, et c'est raconté dans ce spectacle-là.
Voilà. Et je vous renvoie au livre du réseau BACNO, La pieuvre nucléaire, aux éditions du Monde Libertaire. Bien, alors on va en venir au maniement des larmes.
Oui. Qui est le maniement des larmes, c'est le spectacle, c'est le 3 qui clôt cette trilogie, qui est un spectacle sur l'armement, sur cette donc qui est quand même notre spécificité, hein, c'est française, on a quand même quelques motifs de gloire, hein, en France, notamment d'être un des pays qui dispose d'une industrie de l'armement formidable.
On est le troisième ou le quatrième, je me rappelle jamais.
C'est ça, voire le deuxième selon les années.
Tout à fait.
Voilà, en tout cas, on est dans un on est dans cette petite élite mondiale avec des très grandes entreprises, avec des gens qui font notre puissance. Chacun fait ce qu'on peut. Nous, c'est parce qu'on a les plus gros armements qui nous permet aujourd'hui d'être toujours d'ailleurs dans ce petit conseil très fermé qui est les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Grâce à cette formidable industrie qui nourrit beaucoup de familles françaises et qui fait que bon ça permet aussi malheureusement c'est des très grosses sommes qui sont brassées.
Tout à fait.
Et les marchés qui sont passés là-dedans sont très 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 juteux et permettent d'avoir des très grandes
amplitudes financières, on va dire.
Voilà. Il se trouve qu'il y a certains de nos dirigeants qui parfois peuvent se servir de cette industrie de l'armement pour avoir des campagnes électorales un peu plus
corsées,
un petit peu plus importantes qu'elles ne devraient. Voilà, donc c'est l'objet du spectacle, le maniement des larmes.
Alors, il y a un documentaire et un livre d'une excellente documentariste aussi qui rejoint ton spectacle, qui s'appelle « Mon pays vend des armes » de Anne Poiret. Le documentaire n'est pas disponible sur la télévision publique, mais le livre est disponible, je vous le recommande. Oui.
Il était sur Arte, non, longtemps.
Longtemps, mais il est plus disponible. Okay. J'ai essayé de l'avoir aujourd'hui.
Histoire de droit.
Histoire de droit, ou peut-être qu'il dit trop de choses sur la
maman. Ah, peut-être. Oh, je crains que la réalité soit plus triviale, oui.
Oui,
tout à fait.
Voilà.
Oui. Malheureusement, c'est pas si simple. Ah oui, c'est effectivement important comme documentaire. Oui,
comme dirait Coluche, on ne dit pas les choses à la télévision, il y a trop de monde qui regarde. Voilà. Donc, je rappelle que les trois documentaires...
Oui. Donc font l'objet de trois livres ou d'un coffret aux éditions de l'Échappée qu'on trouve effectivement.
Alors on peut les acheter les trois individuellement au théâtre ou on peut on peut l'acheter.
Tout à fait. Au théâtre d'ailleurs je suis pas sûr qu'on en ait encore. Ce qu'on a encore au théâtre c'est La France Empire
qui est le
dernier spectacle. Ouais.
Alors on va revenir à La France Empire par une phrase. que tu dis, c'est en présentant, tu as donné une interview très bien faite, que j'ai savourée, au site histoirecoloniale.net, qui est dirigé par Gilles Manceron, un excellent historien.
Très grand historien, oui.
Alors, lequel, le 19 octobre, de 14h à 18h, au CICP, 21 Terre rue Voltaire, dans le 11e, organise deux tables rondes, l'une sur la Kanaky et l'autre sur la France-Afrique. Pour la Kanaky, il va recevoir le député Emmanuel Chibaou et Nathalie Théo de la LDH. Et pour la France-Afrique, ce sont des intervenants de l'association Survie. Voilà. Donc François Graner et David Mauger, entre autres. Bien. Donc, il faut se précipiter parce que ça va être très vite plein et les places sont limitées. Donc c'est à 14h jusqu'à 18h au CICP. Alors Nicolas, tu dis ceci, il ne s'agit pas de dire du bien ou du mal de l'histoire française, mais de la connaître.
Oui.
Voilà. Et pour la connaître, à un moment donné, tu parles de Henri Guénaud et de Sarkozy et de Dakar.
Oh, oui.
Voilà. Donc, tu expliques que tu as été très gêné. Bon, nous, on était fous de rage. Mais nous, on n'aimait déjà pas Sarkozy. Donc, d'apprendre qu'on n'est pas rentré dans l'histoire, ça nous a fait quelque chose. Ça nous a mis en rage. Et donc, je voudrais te faire écouter, si Jean-Michel peut... Alors, il me fait signe qu'il lui faut encore un petit délai, mais on a le temps de discuter. Il me fera signe quand il sera prêt. Je voudrais qu'on écoute, avant la pause musicale, la réponse l'explication de François Xavier Verschave sur la place de l'homme africain dans l'histoire. François Xavier Verschave avait une admiration sans borne pour Fernand Braudel, qu'il qualifiait de plus grand historien du XXe siècle. Voilà. Donc, voilà sa réponse. Merci.
Pour parler de la France-Afrique, je vais vous parler un tout petit peu de l'historien de longue période, Fernand Braudel, qui est le plus grand historien du XXe siècle, qui a beaucoup écrit sur la Méditerranée, vous le savez sans doute, parce que ça va nous éclairer sur les enjeux, et notamment sur ce qui est arrivé à l'Afrique. Braudel décrit toute l'histoire de l'économie, mais aussi de la politique, comme une maison à trois étages. Vous avez en bas, au rez-de-chaussée, l'économie de subsistance, de survie, d'autoconsommation, la pêche, la chasse, l'agriculture locale. L'humanité a vécu... C'est bon ? L'humanité a vécu pendant plus d'un million d'années exclusivement dans ce rez-de-chaussée. Et puis progressivement, il y a eu ce qu'on appelle l'échange local. L'image la plus achevée, c'est l'échange ville-campagne au Moyen-Âge, avec les gens qui allaient de leur campagne jusqu'à la ville dans la journée et qui rentraient le soir. Et on voit bien la place du marché, etc. etc. Donc cet échange local, il a commencé il y a 10 ou 15 000 ans. Il se poursuit toujours. Et puis ensuite, Braudel parle de l'échange au loin. C'est-à-dire que des gens ont été capables de monter des expéditions à travers des caravanes transcontinentales, à travers ensuite les navires qui allaient jusqu'en Extrême-Orient, et puis ensuite, grâce à l'essor des télécommunications, à l'essor des moyens techniques et financiers, un certain nombre de gens ont pu s'extraire du marché local pour conquérir des positions mondiales. Et ces gens-là vous parlent en permanence du marché, mais en fait, leur seule ambition, c'est grâce à leurs moyens, leur super moyen de se placer en position de monopole ou d'oligopole, comme on dit, c'est-à-dire d'être un ou deux à contrôler le marché. Autrement dit, là, ce que décrit longuement Braudel après un travail de plusieurs décennies et dans son ouvrage majeur « Civilisation matérielle, économie et capitalisme », c'est que vous avez trois étages de l'économie, l'étage d'extrême proximité, ensuite l'échange local, et puis vous passez à l'économie monde ou à la macroéconomie, l'économie au loin. Ici, on ne pratique pas encore les règles du jeu de l'économie. Ici, on les pratique, et ici, on ne les pratique plus. Vous avez la même chose en politique. Vous commencez dans la famille et le clan. Ensuite, vous avez la démocratie locale, parce que toute la démocratie, tout le débat public a toujours été local. D'abord, en contrariété au pouvoir absolu. Et puis ensuite, vous avez la macropolitique, et au niveau macropolitique, on ne pratique plus les règles de la démocratie. Si vous regardez les grands enjeux du monde, le jour où les promoteurs de la démocratie, les Américains, appliqueront à l'échelle de la planète la règle de la démocratie, un homme, une voix, vous viendrez me chercher, mais je crois que je ne serai plus là. Donc, on est dans un système où, ici, on ne pratique pas les règles du jeu de la démocratie, du débat public. Ici, on les pratique. Ici, on ne les pratique plus. C'est la même chose en football. Vous apprenez à jouer au football dans la rue, dans la formelle, à côté de chez vous. Ensuite, il y a des millions de personnes qui se mettent à vouloir un arbitre et à pratiquer les règles du jeu. Et puis quand vous vous appelez Bernard Tapie ou Berlusconi, vous commencez à trouver que la glorieuse incertitude du sport, c'est bon pour les autres, mais pas pour vous. Vous avez la même chose dans d'autres domaines. Donc vous avez un mécanisme que décrit Braudel, qui est un mécanisme sociologique, où l'humanité fonctionne avec un étage de proximité. Puis ici, on apprend à survivre, on apprend à échanger, on apprend à naviguer par des phénomènes d'initiation qui permettent de construire les différents étages. Et très souvent, ce qu'on appelle le capitalisme, c'est quand cet étage-là écrase les autres, parce que les autres sont tout à fait indispensables, ils sont même plus qu'indispensables. C'est-à-dire que vous avez deux types de sociétés. Les sociétés ballon de rugby, attendez, c'est un neuf, là, c'est vraiment pas... Enfin, la société ballon de rugby et la société en sablier. La société Ballon de Rugby, c'est les sociétés. J'aurai l'occasion d'y revenir parce que je terminerai, après vous avoir décrit des choses assez horribles, je terminerai sur une note positive. La société Ballon de Rugby, c'est quand l'étage intermédiaire, qui est l'étage des règles du jeu, est dilaté de telle manière que les gens ne sont pas enfermés dans les ghettos du rez-de-chaussée, et les femmes qui, dans beaucoup de civilisations et dans une grande partie de l'histoire, ont été cantonnées au rez-de-chaussée, n'accédant pas à l'échange, qu'il soit économique ou politique, dans ces systèmes où on a pu dilater l'étage des règles du jeu, elles ont la possibilité d'accéder à cet étage. Et inversement, si l'étage des règles du jeu est dilaté, eh bien, il arrive à fonctionner en contre-pouvoir pour empêcher le double langage de l'étage supérieur d'être excessif ou de délirer. C'est-à-dire que quelque part, on empêche que ces gens qui sont là et qui en permanence font le contraire des règles du jeu qu'ils prétendent faire appliquer, puissent exagérer. Quand la confiance se perd, c'est-à-dire que quand dans les règles de l'économie, de la politique, de la science, du sport, de la nourriture, des bovidés, etc., tout commence à se perdre, les gens se disent « mais je ne vais pas être le dernier à ne pas tricher ». Et à ce moment-là, l'étage intermédiaire qui est dilaté par la confiance dans les règles du jeu se crève comme un ballon et on passe dans le système en sablier. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un cycliste qui croit qu'on peut courir sans être dopé. Et par conséquent, on passe dans ce domaine-là. Autrement dit, si vous voulez, ce qui fait qu'il y a une démocratie, qu'il y a un développement, etc., suppose qu'il y ait une confiance dans un minimum de règles du jeu. Et quand ces règles du jeu sont trop atteintes, on passe dans des sociétés extrêmement violentes où il y a des très riches, il y a des très pauvres, et les très riches gagnent au détriment des très pauvres. Alors, pour comprendre l'enjeu que je vais vous raconter maintenant sur l'envers de la dette en Afrique, il faut voir ce qui s'est passé depuis l'an 1000. Je dessine brièvement l'Afrique. En l'an 1000, les Africains, ils naviguaient jusqu'en Chine. Il y avait de très grands États en Afrique. À la même époque, nous, en Europe, on clapotait péniblement dans la Méditerranée. Donc, en l'an 1000, les Africains, ils avaient l'économie de subsistance, ils avaient l'échange local, et ils accédaient à l'économie monde, à la macro-politique, à l'économie monde, etc. De même, il y a tout le travail d'Anta Diop sur l'influence, enfin, le rôle des civilisations africaines dans l'Égypte, etc. Donc, tout ce mépris que nous avons et qui est au cœur de ces relations franco-africaines, ce mépris qui consiste à dire « il n'y a pas de créativité politique et culturelle en Afrique » est une absurdité totale. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? À partir de 1500, il y a eu les Portugais qui ont encerclé l'Afrique de 1400 et 1450 en l'espace d'un siècle. Autrement dit, avec cet encerclement, et puis ensuite l'esclavage, on a capturé l'étage supérieur, l'accès à l'économie monde de l'Afrique. Ensuite, avec la colonisation, on a folklorisé l'étage intermédiaire. On l'a aliéné, l'étage de l'échange local. Et l'Afrique n'a réussi à survivre à ces 3 ou 4 siècles d'agression épouvantable qu'en se repliant sur le rez-de-chaussée du clan, de la famille, en hypertrophiant les solidarités de cet étage. Donc ça a été quelque chose de formidable pour l'Afrique, parce que quelque part, c'est ce qui lui a permis de survivre. Et ces solidarités-là sont très importantes. J'ai écrit tout un livre sur ce fonctionnement à partir de Brodel, et on s'aperçoit bien que, en permanence, c'est de là que tout repart. C'est là que sont les gènes des civilisations, c'est de là que les valeurs d'une société peuvent repartir. Qu'est-ce que c'est que conquérir l'indépendance à partir de 1960? C'était pour les Africains reconstruire les étages qui avaient été détruits par la colonisation et l'esclavage. Et donc vous allez voir que tout ce que je vais vous expliquer maintenant de la France-Afrique, ça a été un jeu depuis 40 ans qui a consisté en permanence par toutes sortes de moyens politiques, économiques, barbouzards ou idéologiques de faire retomber en permanence l'Afrique dans ce niveau-là, en lui disant « vous n'êtes pas capable de déployer des règles du jeu, qu'elles soient économiques, politiques, culturelles, à ce niveau-là, ni d'accéder à l'économie monde ». Et donc c'est cela l'enjeu dont je vais vous parler maintenant assez brièvement. Qu'est-ce que c'est ? Alors, avant de vous parler de la France-Afrique, je vais vous parler un tout petit peu...
Africa, la pompe Africa, vous savez pomper. Elle fabrique la pompe Africa, vous savez pomper. Par le général de Gaulle, beaucoup moins que tu en sais Africa. Contrôler. Baïka, Baï François Mitterrand, Corrier de Lico, Réi Djogéfi. Sirac, beaucoup m'y dit en l'olulé, Baïka Sarkozy. Politique France. Africa, wana ko khola, bomulenyo. El fabrica, la pompe Africa, vous nous avez pompé.
Suñu bop nañu liggéey maam ndax xamna né suñu liggéey suñu rew ba jëm kanam yow mi né yow buñu nangou nasaraan bi ñoo suñu rew jël la fa baax yow bu seen rew lolu kan lay jéx buñu joxé suñu indépendance ñom ñu am luñu samp suñu ginaaw ngir ma ñoo no yen ñi tu africain don ñom seen complice why le blog is they yeah ah mon day yeah xana xamo xana xamo le
bay umar bongo ma ñi tupe albert bongo sa gabon koku mo don dit la Bay Oumar Bongo, mani tupe Albert Bongo, sa Gabon, koko mo don dila. Carolo, koko mo don gitu Elfa si Afrika, mini kara petit. Versaf, wakon nga si Teremi, baka yi joge fe. Waxon na ci France Afrique ba xey joge fa Politique France ci Afrika war nañ ko xolaat El Fabrica La pompe Afrika Vous nous avez pompé
La radio diffusion nationale vous parle
Notre ligne de conduite c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités. Quels sont nos intérêts ? Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons.
Chers auditeurs de Pas de Quartier, l'émission du groupe Louise Michel sur Radio Libertaire, 89.4 FM, en région parisienne. Nous sommes dans la dernière partie de notre émission avec Nicolas Lambert. Nicolas,
Oui.
Tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi ce titre en particulier?
Ah, c'était Seydina Insawa, là, qui rendait hommage d'ailleurs à François-Xavier Verschab. Mm-hmm. Deux grandes personnes pour moi. Hein.
Alors, Saltimbanque,
tous les deux nous ont quittés. Ouais. Et cette chanson-là, c'est la chanson qu'il chantait justement dans le spectacle Elfe la pompe à frites. On a entendu tout à l'heure aussi Seydina Insawa. C'était une très grande vedette au Sénégal et j'ai eu la chance d'aller faire de tourner un spectacle il y a bien longtemps avec lui, un spectacle pour enfants à Dakar. Et c'est à cette occasion-là que on faisait des choses à Dakar et à un moment donné il chante une chanson dans un grand festival qui évoquait les tirailleurs de Tiaroy. Et je lui dis bon, mais je sais pas de quoi tu parles dans cette chanson. Et j'avais été impressionné par la façon dont cette chanson a été reçue par le public, très 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 fort. Je raconte ça dans le spectacle. Je raconte que Seydina Insawa a fait partie des gens qui m'ont permis d'entendre des choses que je ne savais pas, qui m'ont permis de, par exemple, sur le mur de l'Institut français à Dakar. L'Institut français, c'est l'endroit où la France a gardé un centre culturel et un centre diplomatique important là, sur place. Et ben, il y avait une fresque à la gloire de Faidherbe. Louis Faidherbe, bon. J'ai demandé à mes camarades sénégalais qui c'était. Bah, ils m'ont expliqué, c'est l'homme qui a pacifié le Sénégal. Ah ouais, c'est sympa, ça marque bien. Non, attends, t'as pas compris ce que c'était pacifié. Pacifié, ça voulait dire des dizaines et des dizaines et des dizaines de villages incendiés avec toute la population à l'intérieur. L'idée, c'était pacifier pour que les Blancs, nous, Français, puissions être peinards et avoir la paix avec les indigènes. Eh bien, il a fallu que j'aille sur place pour comprendre ça. Il a fallu que j'aille tourner des spectacles au Sénégal, au Mali, au Bénin, pour toucher une autre réalité et entendre une histoire que je ne savais pas qu'était la mienne, puisqu'on me l'a pas racontée. Et c'est ça que je raconte dans cette histoire qui s'appelle La France Empire, sur scène en ce moment. Et bon, que j'ai pas appris ça, bon, bah, peut-être que j'étais pas bon à l'école, peut-être que j'ai pas eu les bons profs, ça. Mais ce qui m'a un petit peu contrarié, c'est que devenu père, hein, devenu tonton, devenu en voyant que les enfants autour de moi n'apprennent toujours pas ça, même. Moi, par exemple, je vis dans un quartier populaire dans lequel, quand ma môme était au collège, elle était...
Alors, je peux lire le texte du sujet.
Ah,
ça, c'est...
Ah oui.
Ouais. Elle reçoit un brevet blanc en 2017.
Ouais.
L'un des sujets, c'est montrer en quelques lignes que l'armée française est au service des valeurs de la République et de l'Union européenne.
Oui.
Alors, ça... ça t'a amené à être perplexe devant ce sujet scolaire.
Oui.
Tu en as fait un spectacle. Et tes questions, c'était les suivantes. Que fait précisément l'armée française? Ça, je peux y répondre. Et quelles valeurs de la République et de l'UE on parle? Ça aussi, je peux y répondre. Mais je te laisse la parole. C'est toi l'invité.
Oui, parce que c'est compliqué de répondre à cette question-là quand t'es en troisième. Il faudrait avoir des éléments et c'est compliqué en fait, même quand on est grand. Moi, j'ai mis du temps à comprendre ce que faisait notre armée en Afrique. Et après, pour les besoins de mes spectacles ou de reportages ou de choses comme ça, je suis allé voir des parlementaires pour dire, mais vous savez ce qui se passe un petit peu? Vous savez, c'est quoi le bilan, par exemple? Là, ces derniers mois, nos armées se sont fait chasser un peu comme des malpropres du Burkina Faso,
du Mali, du
Niger. Bon, moi, c'est... vous avez eu un petit peu les résultats, là, le bilan de ces opérations? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, quand même, nos armées, ils sont restés quand même plus de 10 ans, là. C'était des opérations importantes. Eh ben non, au Parlement, ils savent pas. Alors bon, ils ont d'autres chats à fouetter. Il faut qu'ils gèrent plein de choses. Mais quand même, ce que fait nos armées. Je sais pas vous dans vos boulots, mais moi par exemple sur le plateau, moi je fais un boulot qui s'appelle du théâtre. On doit faire des bilans tout le temps. À la fin d'une représentation, faut faire savoir combien il y a eu de spectateurs, combien on a fait rentrer de recettes, s'il y a eu
Des dépenses.
Ouais, et puis qui est venu, est-ce qu'il y a des professionnels qui sont venus acheter le. Voilà, on fait des bilans, et puis à la fin de l'année, on fait le bilan de toute l'année, on dit, bon bah voilà, on a eu, c'est super, on a fait tant de. Ou alors c'est nul, bon, on n'a pas fait assez de spectateurs, ou alors on s'est planté, on a. Bon, voilà, on fait des bilans, et on sait, bah, nous par exemple, il faut louer un théâtre à Paris. Nous, on travaille dans le privé, puisque le public a bien du mal à acheter nos spectacles. Bon, ben, on loue des théâtres, ça coûte super cher. Hein. Quand on loue un théâtre à Avignon, on loue un théâtre à Paris, on parle de dizaines de milliers d'euros, hein, à chaque fois, c'est quand même conséquent. Eh ben, si ça se trouve, nos opérations au Mali, ça coûte plus cher encore que de louer un théâtre à Paris. Mais je sais pas, je peux même pas répondre à cette question-là. On n'a pas les sous. Or, on n'a pas les montants. Or, j'ai bien l'impression que c'est quand même avec nos sous
avec nos sous, je confirme.
Moi, j'aime bien savoir ce que deviennent mes sous, parce que, enfin, sinon, ça m'embête un peu, voilà.
Alors, ta fille, je me rappelle d'elle, pendant le spectacle Elf, la pompe Afrique, elle était chargée de t'offrir des fleurs à la fin du spectacle.
Oh, tu te ça.
Je me rappelle de ça. Je l'ai trouvée touchante. Donc maintenant, elle a 15 ans.
Elle a 15 ans, et bientôt 16.
Voilà, et elle affronte... Voilà, et elle affronte... des sujets de brevet blanc de cette nature. Ouais, bon, elle l'a pas choisi, d'après ce que j'ai compris dans l'interview.
Exactement. C'est pas ce qu'elle a choisi. Non, mais par contre, elle a des camarades qui ont choisi ça. Ouais.
Bon, ça prouve déjà qu'elle est intelligente.
Oh bah oui, elle est pas allée s'embêter avec ce sujet-là. Il était quand même pas. Mais ce qui est contrariant, c'est d'avoir. On demande à des enfants de 15 ans de faire des bilans de choses que nous adultes sur lesquelles nous on n'a pas prise. On n'a pas les moyens. Ou alors, c'est juste des sujets rhétoriques qui sont là pour qu'on dise ouais c'est super ce que fait l'armée. Et si ça se trouve, c'est très bien ce que fait l'armée. C'est juste qu'il faut qu'on ait les moyens d'avoir une opinion. Si ça se trouve, ce que notre armée a fait au Rwanda, c'est très bien. Ce que notre armée a fait dans des tas de pays, au Sahel, en Libye, ça se trouve, c'est très bien. Mais il va falloir nous le dire à un moment donné. Il va falloir nous expliquer ce qui se passe dans ces pays-là. Et ce qui est contrariant, c'est que... À entendre les principaux intéressés, semble-t-il, les Maliens, les Nigériens, les Burkinabés.
C'est pas vraiment ça.
Non. Alors.
Pour qu'ils disent dégage.
C'est embêtant. Soit ils sont vraiment très mauvaise foi, ils sont vraiment pas gentils.
Ingrats,
voilà. Soit ça se trouve, on a peut-être merdé.
Au Rwanda.
Il paraîtrait qu'on
aurait
fait 200 000
victimes
en
3 mois.
Il semblerait qu'on n'ait pas été très bon sur ce dossier-là. Mais
ça dépend de quel point tu te passes.
Ouais, c'est ça.
Si tu considères qu'en 3 mois on a réussi à aider à éliminer 1 200 000 personnes, c'est le chiffre que retiennent les historiens. Bon, les historiens de bonne qui travaillent bien. D'autres disent 800 000. Donc,
à part c'est difficile, de toute façon, on est sur des telles proportions. Mais c'est là où je veux en venir. C'est que il est possible qu'on ait, nous, besoin de. La notion de récit national, je veux bien l'entendre, hein, moi. On a besoin, des fois, de faire du nous. C'est important de faire du nous. Ça peut être sympa quand on se retrouve autour d'un bon repas de faire du nous. C'est sympa d'aller voir un match. C'est sympa et quand c'est un match, ou des Jeux Olympiques ou des choses comme ça, c'est sympa. Il y a nous, il y a eux. Ok, génial. Et puis à la fin, on se retrouve, on boit des bières. Ah merde, on a perdu. On a perdu. C'est toi qui paye la bière. Mais quand on fait du nous au niveau national, pas simplement sur des équipes de foot ou de tournois d'escrime ou de jeux paralympiques. Quand c'est un nous qui a besoin de s'exprimer en disant nous on a une histoire formidable, on a une armée formidable, etc. Et on met ça dans un récit national. Bon, ok, je veux bien l'entendre. Les autres en font tant, c'est de bonne guerre, comme on dit. Mais on est d'accord, c'est pas très sérieux de confondre ça avec l'histoire. Tu viens de le dire, Mariama. L'histoire, c'est les historiens qui font ça. L'histoire, c'est on prend les faits et puis on les met les uns à côté des autres, on les juxtapose et à un moment donné, ces faits-là nous racontent une histoire. Et cette histoire-là, quand c'est la nôtre, il faut la regarder en face. Bon, et ça peut très bien ne pas s'accommoder avec le récit national. Simplement, aux enfants qui, comme ma fille, à partir de la troisième, quittent le système scolaire traditionnel pour des tas de raisons, qui vont en filière technologique, qui vont en filière pro, qui vont bon, ok. Eh ben, ils vont plus avoir ce truc qui s'appelait le cours d'histoire jusque-là. Mmh. Et ce qui est embêtant, c'est que dans une classe comme celle de ma fille, dans laquelle il y avait deux bons gros tiers de personnes qui venaient de tas de coins du monde différents, on n'a pas appris à ces enfants-là, à aucun moment de la scolarité, qu'ils venaient pas par hasard de plein d'endroits du monde, mais de tas de lieux dans lesquels nous avons été présents, que ce soit au Vietnam, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les Antilles, que des tas de gens qui viennent avec qui c'est ça qu'on appelle l'outre-mer. Et cette histoire-là, elle n'a jamais eu accès à cette comment ça se fait que ma fille ne sait pas que l'Algérie faisait partie de la France d'après-guerre, que la Syrie faisait partie de la France d'après-guerre.
Que le Liban était un protectorat français.
Voilà. Comment ça se fait que toutes ces zones-là, qui faisaient partie de la France d'après-guerre, ma fille ne sait pas, je n'ai pas su, je n'ai jamais appris dans toute ma scolarité que nous avons des liens aussi forts avec autant de lieux, de gens, de cultures. Ça ne fait pas partie de mon histoire. Et c'est ça que je ne comprends pas. Que l'histoire qui est racontée aux enfants, que ma fille ait passé 3 mois de sa vie à étudier la Première Guerre mondiale avec des batailles à qui mieux, dont il me semble qu'on aurait pu aller un peu plus rapidement sur ces histoires-là. Eh bien non, le programme scolaire fait que ben non, tu vas passer des mois de ta vie à étudier la Première Guerre mondiale. À la fin, tu n'as toujours pas pigé pourquoi il y a eu la Première Guerre mondiale. Non. À la fin, tu ne sais toujours pas qu'est-ce qui a fait que les hommes vont se désinguer par millions dans les plaines picardes. On comprend toujours pas. Ok, bon. Et on n'est pas fichu d'avoir un mot pour dire ah oui, tiens, au fait, on est allé massacrer des populations entières en Algérie, au Sénégal, que sais-je.
À Madagascar,
au Cameroun, en Guadeloupe. Bon. Et ça, c'est pas du tout raconté aux enfants. Là, on va pas être d'accord, les amis. On va pas être d'accord. Et c'est là où je me dis, tiens, c'est marrant, il y a ce truc qui s'appelle l'éducation nationale. Et c'est là où ça me pose un petit problème. Pourquoi on a pensé à mettre national au bout du nom de ce ministère-là? On fait cette émission en octobre 2024. On vient d'avoir un nouveau gouvernement la semaine dernière.
Ouh là là.
Et on a... Figurez-vous qu'on a encore un ministère où il y a l'éducation nationale. Est-ce qu'on imagine sérieusement un ministère de l'agriculture nationale? Un ministère de la santé nationale? Il y a quelque chose qui... Et j'ai du mal à comprendre pourquoi aujourd'hui on continue à avoir cette dénomination qui est typique des années 30, d'un moment de... Pour faire simple, de fascisation de la vie politique où il fallait donner des gages aux gens les plus extrêmes de la droite française à l'époque et transformer l'instruction publique en éducation nationale, eh ben on en est encore là. J'ai un petit peu de mal à ne pas avoir de rapport entre cette façon dont on a transformé notre histoire en récit national, en tout cas l'histoire qui est enseignée dans ces bâtiments-là. Et il me semble bien que on a oublié que la mission de l'histoire, c'est de raconter l'histoire et pas celle qui nous arrange.
Tout à fait. Alors, pour en revenir à ton spectacle, La France Empire, un secret de famille nationale.
Oui.
À un moment donné, tu fais un passage par l'outre-mer. J'ai vraiment apprécié. Mmh. Et surtout, tu parles de Mayotte.
Oui.
En disant que c'est un vol colonial.
C'est Mayotte, c'est.
C'est prodigieux.
Ah
le passage de la Picardie. Je ne vais pas donner tout de ton spectacle parce qu'il faut donner envie aux gens de se précipiter. Il faut vite réserver. Sur la compagnie, c'est Un Pas de Côté.
Oui, unpasdecôté.org.
Ouais. .org. Il faut vite se dépêcher, surtout qu'on a du mal à avoir des places. Donc allez-y par groupe, c'est plus facile, par groupe de 10. Et en plus, il y a des prix quand on va en groupe.
C'est vrai.
Voilà. Je sais, puisque je fais partie d'un groupe qui a réussi à envahir le théâtre pour s'y installer.
Le spectacle se termine par Mayotte, parce que je traverse effectivement plusieurs périodes de notre aventure impériale.
Ça part de Picardie.
Oui, donc tout à fait. Famille. Tout à fait. Moi, je viens de Picardie, même si ça ne s'entend plus aujourd'hui, puisque j'ai repeint mon accent en blanc à un moment donné, pour m'intégrer en France, enfin en tout cas à Paris, et en Île-de-France. Et ça se termine à Mayotte parce que moi j'aime bien faire des reportages. Hein, on l'a dit, moi je suis allé quand il s'agissait de comprendre ce qui s'était passé avec Elf, je suis allé sur place. Quand il s'agissait de comprendre ce qui se passait dans le nucléaire, dans l'armement, j'ai fait beaucoup de reportages pour ces spectacles-là. Et là, je pouvais pas retourner dans l'Indochine des années 50, je pouvais pas retourner dans l'Algérie des années 60, je pouvais pas retourner dans Madagascar des années Et en même temps, je me disais, mais comment ça se fait que quand on regarde les journaux de l'époque, et puis quand on interroge les anciens, et qu'on leur demande, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé, toi, pour toi, quand il y a eu ces guerres terribles en Indochine? Tu sais, moi, j'étais pas au courant. Nous, on avait d'autres chats à fouetter ici. Ah bon? Et quand ça s'est passé à Madagascar, tu sais, moi, j'étais pas au courant. Ah bon? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vois pas aujourd'hui? Et là, je me suis rendu compte que cet empire, on en avait gardé un bon gros cinquième.
Tout à fait.
Et que on n'a pas perdu du tout la main sur ces lieux-là, sur ces zones-là, ni sur ces gens-là. Et on n'a pas du tout perdu notre façon de faire. On sait toujours bien répondre par la moindre volonté d'une population locale de demander un petit peu de... elle est toujours un peu partout, cette promesse républicaine, hein, liberté, égalité, fraternité, un peu sur plein de frontons. Et ben quand vous avez des gens d'une population autochtone, de cet empire-là, qui commençait un peu trop à réclamer un peu de liberté, un peu d'égalité, un peu de droit de vote, un peu de sécu, un peu de SMIC. Et c'est étonnant à quel point la réponse est toujours donnée par les forces de l'ordre.
Les compagnies républicaines voyagent bien.
Oui.
Ça, on sait faire.
Oui.
Il n'y a qu'à voir aux Antilles. Nous avons consacré vendredi dernier une émission sur la crise des Antilles. Il y avait comme invité Thierry Gadeau. Donc, nous avons une deuxième émission qui est un vendredi sur deux de 16h30 à 17h30. On peut la réécouter en podcast. Et les Antilles, notamment la Martinique où il y avait plus de compagnie républicaine depuis 59, quand il y a eu les émeutes, ils les ont renvoyées.
Oui, c'est ça.
Et elles en venaient de Mayotte. Elles étaient à Mayotte pour l'opération Wambushu. Donc, si tu veux en dire un mot.
Oui, c'est ça. Je me suis proposé d'y aller, d'aller voir un petit peu et de faire ce voyage dans l'espace et dans le temps pour voir comment euh, on, on répondait à des problèmes, à ces problèmes que on devrait appeler des problèmes sociaux ou sociétaux, ou de façon extrêmement violente. Mais j'ai vu ce qui se passait là-bas, et c'est vrai que c'est pas très... C'est ce que je raconte un petit peu dans le spectacle, et il se trouve que bon, bah, c'est pas juste, c'est pas une opinion de ma part, hein, de dire ça, c'est quand même un peu embêtant ce qui se passe. Il y a un machin, comme dirait un ancien président de la République française, qui s'appelle l'ONU quelque part, qui considère que ce que nous faisons à Mayotte, c'est pas très bien. Ce que nous faisons en Nouvelle-Calédonie, c'est pas très bien. Ça s'appelle, c'est embêtant, hein, parce que quand on vient de parler là, Mariama vient de parler de l'opération Wambushu. Wambushu, c'est un mot d'une langue comorienne qui veut dire reprise en main. Et cette reprise en main, c'est des policiers, des soldats, des gendarmes qui vont chercher ce qu'on appelle des étrangers dans l'archipel des Comores. Les étrangers dans l'archipel des Comores, ce sont des Comoriens. Ça, c'est étonnant. Moi, quand j'ai vu ça, je suis venu en même temps que des tas de compagnies républicaines de sécurité. On venait de l'autre côté de la planète. Hein. Et ben là-bas, on avait tous les droits. Et pas les Comoriens dans cet archipel des Comores. C'est très étonnant. Eux, on les appelle les étrangers. Et les étrangers, on les chasse par dizaines de milliers chaque année. Les chiffres les plus bas de
c'est 22 000.
C'est 25 000, ouais, c'est ça. L'année dernière, c'était 27 000. Mmh. On chasse 27 000. Vous voyez ce que ça veut dire, 27 000? C'est considérable. Enfin, moi, je viens d'une ville quand même un peu importante en Saône-et-Loire. C'est 1000 habitants, hein, qui est grande comme Paris. En surface, ben, il y a 1000 habitants. 25, c'est considérable. Chasser 25 000 personnes par an, d'une île à l'autre, et ça se fait pas dans la tendresse. Ça se fait pas dans la tendresse. J'ai vu des gens qui on appelle ça du décasage à Mayotte. C'est très élégant. On va chercher des Comoriens dans leur maison, dans leur case. On détruit leur case, on détruit leur village entier. Et c'est étonnant à quel point c'est des méthodes qui rappellent celles de Lyautey, de Gallieni, de nos glorieux anciens qui sont, dont les noms sont toujours sur les plaques de métro, de rue française. Et qui ont théorisé ça, cette capacité de faire, on appelle ça la guerre psychologique. Réussir à gagner les cœurs et les esprits, terroriser d'un côté, séduire de l'autre. Et cette opération-là, Wambushu, en est un exemple. Il y en a bien d'autres, effectivement, en ce moment, en Martinique, il y en a bien d'autres, en Nouvelle-Calédonie, il y en a. Et que dire de toutes ces terres dont on ne connaît rien aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe en Guyane? C'est pas non plus un petit patelin, la Guyane, même par rapport à ma ville qui fait quand même en Bourgogne 10 km sur 10 km, c'est grand, 10 km sur 10 km, c'est comme Paris. Eh ben, la Guyane, c'est 1000 km de frontière commune avec le Brésil. C'est quand même pas mal, c'est considérable, et donc dans ce cas, si ça fait partie de la France, je dois en connaître un paquet de gens de Guyane, et là je sèche, je sais pas ce qui se passe en Guyane, en fait je sais pas du tout qui sont les personnes qui, et ça se trouve c'est peut-être des gens qui ont pas grand mot à dire. Et que faire d'autre que aller sur place pour comprendre, voilà. Que faire d'autre que essayer de raconter ce qui s'y passe en allant dans ces territoires là, en retournant dans le temps, vraiment, puisque c'est ça qui se passe quand on va dans ces territoires là et on se rend compte que la réalité coloniale n'est pas que un fait du passé, qu'elle n'est pas que notre histoire, et c'est peut-être bien pour ça qu'on la raconte pas dans l'histoire, c'est qu'elle n'est pas passée, c'est que c'est pas de l'histoire, c'est encore un présent qui n'est pas bon de raconter tout le temps.
Ceci explique pourquoi tu as autant de mal à avoir des théâtres pour faire ton spectacle.
C'est possible.
Je le rappelle, la France Empire, un secret de famille nationale. Alors je voudrais que tu redonnes les dates. Alors les horaires pour que les auditeurs puissent y aller.
Ça se joue les samedis, dimanches, lundis actuellement au théâtre de Belleville.
L'adresse du théâtre.
C'est entre les métros Belleville en gros c'est le métro Belleville, voilà. C'est à Belleville, le théâtre de Belleville, c'est pas très. Voilà, c'est dans la rue du Faubourg du Temple.
À quelle heure?
Et alors le samedi, il y en a pour tous les goûts. Mmh. Samedi 15h30, dimanche 19h. Et lundi, 21h15. Voilà, comme ça, ça permet à chacun, selon ses horaires, de pouvoir y aller. Et c'est un petit théâtre qui est très sympa.
Très, très sympa. J'en atteste. L'accueil est formidable. Et il faut réserver parce que...
Ouais, et sinon, j'ai la chance de pouvoir aussi tourner dans des tas de petits lieux. Et toutes les dates sont marquées sur le site internet unpasdecôté.org. On va jouer là bientôt dans le Larzac, on va jouer bientôt dans des petites structures, des gens qui nous font venir dans des salles des fêtes, un peu partout, parce que c'est compliqué de tourner dans les théâtres.
Alors, tu parles aussi du musée colonial.
Oui, tout à fait. Le musée ce qui a été le musée de nos colonies, avec ces terribles statues qui sont tout autour. Il y a des gens qui ont eu l'audace et qui font un boulot vraiment intéressant dans ce musée de l'histoire de l'émigration. Ils ne se contentent pas de parler des gens qui viennent en France, mais bien aussi de cette façon qu'on a eu de rentrer dans l'histoire des gens. Et j'ai la chance de pouvoir jouer ce spectacle-là, oui, début décembre.
D'accord, parfait. Donc les dates sont sur le site.
Sur le site internet.
unpasdecôté.org. Alors, je rappelle le titre de la pièce de théâtre, La France Empire, un secret de famille nationale. Je rappelle que à Publico se trouve Bleu,
les
Blanc, Rouge,
de la pièce,
les textes,
fait, ouais.
La démocratie.
Et La France Empire.
Et La France Empire. On l'aura à partir de vendredi, ce vendredi-là, en dépôt, donc vous pourrez l'acheter.
Oui, tout à fait. Oh, maintenant c'est 15 euros. Ouais.
15 euros,
c'est un peu
parfait.
Cher. C'est un peu
ah
cher,
non, mais ça en vaut la peine. J'ai dévoré.
C'est le prix du papier en ce moment.
Oui, le papier coûte de plus en plus cher.
Ah là là.
Alors, cher Nicolas,
oui.
Merci d'être venu pour nous expliquer ton spectacle, ta vie.
Merci beaucoup de m'accueillir avec autant de chaleur à chaque fois.
C'est un honneur. Et nous avons pu...
Partager.
Alors, oui, partager. Je rappelle pour ceux qui voudraient réécouter ou écouter plus d'informations sur François-Xavier Verschave, il y a un site internet qui s'appelle verschave.info. Où il y a des vidéos, des textes, des articles qui expliquent qui était cet homme extraordinaire. Et pour Nicolas Lambert, qui est non moins extraordinaire, unpasdecôté.org.
Voilà.
Merci beaucoup à Jean-Michel d'avoir assuré la technique, sachant qu'aujourd'hui était jour de manifestation, donc il s'est sacrifié pour que l'émission puisse avoir lieu. Nos autres petits compagnons sont dans la manifestation ou dans les afters. Donc je vous donne rendez-vous dans Pas de quartier dans 15 jours et la semaine prochaine vendredi de 16h30 à 17h30 dans La Rage dedans, la deuxième émission du groupe Louise Michel. Merci beaucoup, faites attention à vous et à bientôt.
La Rage. La Rage. Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, sur vos roues j'ai perdu mes dents, sur vos roues j'ai vu la fête, le froid, la pluie, mon petit déjeuner tous les matins, le vent, j'ai dessiné en mille facettes, un cœur rouge, les rues d'un gars, sans oublier rue de Lafayette, ils vous diront, il faut avoir un grain, s'il est rainette, pour qu'on le chasse à l'âge de la retraite, je n'ai jamais dit que c'était sain, je conduisais une camionnette, sincèrement j'ignorais le tas, cela peut arriver au prophète, Monsieur le Président, Madame Chirac, Bernadette, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, ou moi cassez les lunettes, s'il vous plaît, tendez-moi vos mains, avant que je perds la tête. La rage. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves, je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture pulvérisée par la veuve. Prévu de me péter le futur, l'angoisse, vous de la preuve.
La rage.
C'est vrai que j'ai voyagé avec un pourriture, des pourritures. Il m'a joué le rôle du Satan, son rôle a grillé Adam et Ève. Je me suis trouvé derrière les murs pour avoir conduit une voiture. On m'a interdit le territoire, j'ai fait appel à Marche ou Crève. Le seul moyen de dire au public que je n'aurai cyanure. Ici, ils peuvent le faire comprendre à ceux qui se sont réjouis de me jeter comme une ordure. Moi, qui a laissé ma jeunesse et ma sueur sur les autoroutes du Toutry Villeneuve. Monsieur Sarkozy, monsieur de Villepin, s'il vous plaît, permettez-moi si j'ai osé de vous demander un coup de main. Car c'est lui qui m'a jugé, déteste les maghrébins. Même ceux qu'on construit, le musil aura jamais de venin. Fallait voir comment qu'il a rougi, sans négliger, m'a coupé les jambes et compris les mains. Pire que les nazis, l'entend d'Hitler, mon père, il a défendu la source et les artères. Dans l'ennemi de son fils numéro 1. Mais excuse l'Élysée si j'ai plus de frein. Si je laisse le moisi, adieu le pain. Voilà la poésie qui m'a permis d'analyser le défaut de l'humain. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse pour de la preuve. La rage, je vous fais serment devant le juge. Tu juges, c'est qui mon juge, tel qu'un maghrébin. J'étais blessé, c'est mon voisin, il a rien aux zizi tout dans les reins. Il m'aurait donné un coup de fusil ou de me jouer à sa tour. J'aurais pardonné la puvin. Pourquoi j'ai réagi, ça j'ai des gamins. Leur amour m'a fait bouger sans les voir, je leur envoie les câlins. Peut-être qu'ils sont bien protégés, j'ai jamais eu de nouvelles, je ne saurais vous dire la situation de mes poulains. La rage. Mesdames, messieurs les députés, mon âme vous avoue si sincérité. C'est vrai qu'Anan m'a fait tomber quand j'étais petit. Et lui c'est vrai qu'Anan, avec ses talons, j'ai pas pu l'éviter. J'ai pas pu l'éviter, sa banane m'a marqué pour l'éternité. Mesdames, messieurs l'égalité, vous connaissez le renard depuis sa naissance, il vous a jamais quitté. Malheureusement, on profite de sa confiance, mal placée, parce qu'on adore son identité. Mesdames, messieurs la fraternité, vous voyez la conscience, aujourd'hui l'incroyable devient réalité. La rage, Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune ni la fortune, s'il vous plaît, aidez-moi sortir de ce fleuve. Je souffre d'une fracture, pulvérisée par la veuve. Prévu de mes petits futurs, l'angoisse fout de la preuve. Arthur, Arthur, vous qui réalisez les rêves. Je vous demande pas la lune.
Hé, 50 kilos de patates, un sac de sueur de bois, il te sortait 25 litres de 3 étoiles à l'alambic. Un vrai magicien, Joe. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire qui feraient mieux de fermer leur claque-merde.
Je pense que quand on mettra les comptes sur l'envie, ça va.
Je te sors, mais voilà pour les décisions.
J'ai collé une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner.
Allez. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
La connerie à ce point-là. Voilà, je dis que ça devient gênant.
Finalement, c'est un peu sale, je suis dans la vie, non ? Il sert à rien de tout.
J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse.
Je crois que c'est une métaphore, non ?
C'est pas une métaphore. C'est que t'as des phrases. En train de brancher. Ça, c'est une métaphore.
C'est une bonne que tu as de cracher partout devant la race. T'es excessivement énervant.
Doute bien, t'as des excuses. Tu fais le dernier des métiers et ta mère était le plus beau cop vers le tertiaire du département.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Pour 4 points de Paris, on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle.
On a coupé, ça va encore tourner autour du trou de porte.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, ça prend du tout.
Tu marines dans le pinard comme des excuses.
On sent plus de la bulle, c'est du 11°5.
Tu causes pas, tu dégueules.
Ouais, petit peu.
T'es tendu comme une crampe.
Mais non, je suis pas tendu.
Si t'es tendu.
Bah non.
Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. T'as pas entendu, je suis pas tendu.
Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours.
C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases.
Où tu sors, où je te sors, mais pour la prendre une décision.
Comme ça, on te connaît pas. Mais laisse-nous te dire que tu prépares des nuits blanches. Des migraines.
Attention.
Des nervous breakdowns.
L'alerte à la population est en cours.
soutien de la part de Mickey Willis.
Oh, fais-moi le malin maintenant! On fait pas le malin!